Écoutez, Agnès Sandras. Après une première carrière de professeur agrégé, vous êtes désormais conservatrice des bibliothèques, historienne, chercheuse associée au Centre Zola du CNRS. Vous vous intéressez notamment à l'histoire des bibliothèques populaires et d'autre part à la circulation des représentations au XIXe siècle entre presse écrite, caricatures, chansons, etc. Votre dernier ouvrage intitulé Victor Hugo, Le Forçat des Lettres, chez Perrin en 2023, a obtenu le prix littéraire Napoléon III en 2025. Et on va écouter une communication qui s'intitule Audiberti, qui décidément commence à se croire un nouveau Victor Hugo.
Merci Jean-Louis. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de parler du XXe siècle. D'habitude, effectivement, je suis plutôt 19e-iste. Ce qui m'intéresse, en effet, c'est la représentation, la circulation des représentations. Et notamment, ce qui m'intéresse énormément, c'est comment on forge l'image d'un écrivain. Donc, comment se forge l'image d'un écrivain dans la presse, en circulant évidemment entre caricatures, chansons, etc., des écrivains les plus connus. C'est notamment à la fin du 19e siècle par l'interview, mais qui n'existe pas avant, au début du 19e siècle. Et ça va être par des références. Et ce qui m'a beaucoup intéressé pour Audiberti, c'est que comment est-ce qu'on présente un poète aux gens dans la presse généraliste? C'est assez compliqué. Et ça va être forcément par une référence à quelque chose de connu du grand public. Et la référence, j'en dis là, c'est dit, c'est plutôt Hugo que Mallarmé pour le grand public. Parce que si le grand public est capable de réciter des vers, évidemment dans les années 30 ou 50, ce sont les vers de Hugo. Donc on va avoir ce travail d'identification à quelqu'un de connu. Or, ce qui est passionnant chez Audiberti, c'est que lui-même, me semble-t-il, va travailler cette référence. Il va la travailler, Jordi vient de le montrer, par des poèmes. Je vais vous en reparler, parce que je ne savais pas ce que Jordi allait vous dire. Donc forcément, je vais les aborder à nouveau. Mais il va également travailler la référence dans des articles. Et je vais vous montrer, alors de manière, j'ai fait exprès, c'est un mélange, un joyeux mélange. Je vais vous montrer à travers de la critique littéraire pure, mais aussi à travers des articles de presse généraliste, comment on voit cette référence d'Audiberti à Hugo et comment il la travaille lui-même. Alors, comme Jordi, évidemment, je ne pouvais échapper à la référence à Agnès Piquel, qui dit « C'est en tant que poète qu'Audiberti veut exister à ses propres yeux et à ceux de Pollan. Pour cela, il a besoin d'une confirmation, presque au sens du sacrement chrétien. Chez Hugo, il va chercher non un modèle, mais une sorte d'adoubement. » Donc là, on est bien dans la figure du disciple. Et c'est ce que je vais essayer de travailler avec vous ce matin. Comment Audiberti va se placer, consciemment ou non, c'est la question qu'on peut se poser, en disciple. Un amouré dirait certains, d'autres diraient, sont plus sévères. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, avec le poème que vient de vous montrer justement Jordi, eh bien nous sommes dans un prolongement, dans un emboîtement. C'est-à-dire qu'on est déjà, on a déjà un VH et on a déjà un disciple transi qui est Auguste Vacry. Auguste Vacry qui dit « Causer avec les voix dont le monde et l'écho étaient mon but, Paris c'était surtout Hugo, mes monuments, mes parcs, mes princes et mes femmes, c'était ses vers, c'était ses romans et ses drames, les tours de Notre-Dame étaient lâches de son nom. » Et on voit également, vous l'avez souligné tout à l'heure, dans Ange aux entrailles, U signifie et reproduit humanité, mais avec la hache aspirée à la Burgonde, dans Go, le teuton goth advient répercuté, ainsi mon nom, avec orgueil, j'aime qu'il gronde. Et je voulais vous montrer cette caricature, cette réception d'un disciple transi, qui est Auguste Vacry, caricaturé donc par Gilles en 1872. Caricature qui est passionnante, qui est foisonnante, qui montre comment marche cette transmission justement entre un maître littéraire, un chef d'école et son disciple. Vous avez ici Auguste Vacry, bien entendu, en personnage de Notre-Dame. Vous reconnaissez, vous identifiez bien de quel personnage il peut s'agir. Donc voici cet évêque devant les tours de Notre-Dame. Et effectivement, les tours de Notre-Dame sont en train de former ce fameux H. Et vous avez un vol d'oiseau qui forme le reste du nom Hugo. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi une référence. Gilles est un excellent lecteur, le caricaturiste Gilles fréquente la famille Daudet, etc. C'est un excellent lecteur et il sait très bien que dans Notre-Dame, on a une vue panoramique de Paris, et que c'est la première fois qu'on a ce type de vue de Paris, et il va donc, vous voyez, le ressortir dans son dessin. Donc, deuxième caricature de Gilles, qui continue avec Auguste Vacry, et ça a un écho avec ce que vient de nous dire Jordi, puisqu'ici, vous voyez ce pauvre Vacry avec le H sur le front. Il est frappé du sceau hugolien sur son front, vous le voyez. Il est enveloppé, évidemment, dans une feuille de presse, référence, évidemment, au rappel, au journal hugolien dans lequel il va publier et qu'il soutient. Et puis, surtout, il y a la lyre dont on parlait tout à l'heure, cette référence. Et il me semble très intéressant qu'Audiberti emploie, on vient de le voir, le mot lyre lorsqu'il évoque Hugo. Il y a donc bien cette filiation, consciente ou non, chez Audiberti, par rapport à un autre disciple, qui serait Vacry, un des plus proches de Hugo. Autre chose, par exemple, quand on a parlé évidemment aussi de la mort de Hugo, eh bien Jules Claretti raconte évidemment l'enterrement et le faste autour de l'enterrement de Hugo, enfin faste au sens de population nombreuse, pas faste dans l'enterrement. C'est un poète aussi, le peuple. Instinctivement, il est allé contempler le prétexte de l'œuvre, du chef-d'œuvre. En descendant avec M. Victorien Sardou des hauteurs du Panthéon par la rue des vieux quartiers Maubert, nous passons devant Notre-Dame. Il y a des gens du peuple, des ouvriers, des paysans qui regardent la cathédrale, le monument dont Vacry a dit « Les tours de Notre-Dame étaient lâches de son nom ». Et vous voyez que vous avez là ces deux visions qu'on retrouve aussi chez Audiberti. On a à la fois le peuple qui aime le poète et on a à la fois une lecture beaucoup plus érudite avec cette fameuse référence à Vacry que n'a pas le peuple qui se plante devant Notre-Dame et qui est en train de commémorer la mort de Victor Hugo. Alors cette filiation Hugo-Audiberti, elle va être reprise par la critique et par la presse dans une quadruple référence, tout à l'heure vous le disiez en introduction, à savoir les quatre grands piliers de Hugo, la poésie, le théâtre, le roman, le dessin, et bien la presse va essayer d'établir des ponts à chaque fois sur ces quatre thématiques. Par exemple, pour la poésie, à propos de Race des Hommes, voici une critique en septembre 1937. « Je ne crois guère qu'il soit possible d'aimer le lyrisme d'Audiberti, mais comment demeurer indifférent à tant de puissance, de virtuosité verbale qui confine au génie ? C'est une galerie des montres de toute la poésie française, de toutes les magnifiques erreurs, de toutes les outrances concevables, une patte tumultueuse et qui lève, qui éclabousse. Cette écriture insensée révèle une joie sauvage, dont on ne sait si elle est destructrice ou si le chaos annonce un monde nouveau. » Car il ne faut pas s'y tromper, la poésie est partout présente chez Audiberti, qui nous offre, si l'on peut écrire ce non-sens, un langage atrocement littéraire à l'état brut. Cela tient à la fois du père Hugo, de Joyce, de Zara, du canular. Et vous voyez qu'on a une référence, on a la figure paternelle, comme on le disait tout à l'heure, évidemment, de Hugo, puisque un disciple recherche un père en littérature. Autre référence à la poésie sont les plus nombreuses. Vraiment, la filiation, si elle est établie, c'est plutôt entre Audiberti et Hugo par le biais de la poésie. Audiberti, alors ça c'est un texte de 1938, Audiberti a obtenu le prix Mallarmé pour son recueil intitulé « Race des hommes ». Et ce laurier n'était pas pour nous surprendre, car Audiberti reprend la bataille de Mallarmé sur un plan, hélas, inférieur, celui de l'éloquence. Audiberti est à Hugo ce que Mallarmé est à Baudelaire. On n'a pas manqué à louer en lui un magnifique don verbal, je n'y contredirai pas, en regrettant toutefois que l'exubérance du vocabulaire, bien loin de l'éclairer, obscurcisse à tout coup son propos. Le cas de M. Audiberti est d'autant plus caractéristique à cet égard que lorsque d'aventure il abandonne un instant le délire verbal, d'autres diraient verbeux, où il se guinde, il ne se retient pas de tomber dans des platitudes à la Copée. Autre référence, encore, dans le journal des débats politiques et littéraires, la lecture attentive de ces pages fait apparaître de quelles qualités contradictoires elles sont le fruit. On y voit un écrivain dont le génie verbal ne connaît que sa fougue, et on y distingue un auteur d'une extrême conscience qui rejette toutes les facilités de l'improvisation. On y sent un poète qui obéit aux mots et un autre qui les discipline au point de les recréer. À côté de l'homme qui ne se reconnaît d'autres règles que ses dons, l'homme qui les soumet à toutes sortes de difficultés et de rigueurs. Combinaison admirable et monstrueuse, mélange qui est un délicieux scandale. Peut-on supporter qu'un même écrivain ait comme Janus un double visage, l'un tourné vers Victor Hugo, l'autre vers Mallarmé. Alors vous voyez, là en plus, c'est la duplicité du disciple qui a en fait deux maîtres. Donc c'est Janus. Il a, et c'est vrai que l'autre grande référence qu'on va trouver dans tous ces textes, c'est Mallarmé. Le roman, bien entendu, hein, on va établir une filiation aussi. Vous aurez une idée du cas de Diverti, poète singulier, hermétique et macaronique, tout vibrant de génie solaire. On pense à le lire aux idiomes inventés par Jarry ou par Hugo dans ses monstrueux premiers romans. Aussi, il faut le dire, à Paul Adam, écrivain extravagant lui aussi, et jargonnant, mais aujourd'hui complètement oublié. Un écueil guette donc au Diverti. Il lui faut apprendre à limiter sa truculence, à la rendre plausible et nécessaire, à épaissir la chair et le sang, que recouvre cette carapace éblouissante qui, pour l'instant, offusque nos regards. Et vous voyez cette thématique aussi de la carapace, c'est-à-dire de l'homme qui est en train de se forger, hein, et qui peu à peu va naître de ce lien de disciple à plusieurs personnes, mais notamment Hugo, hein, et à ses monstrueux romans. C'est un texte signé de Jean Cassou. Le théâtre, bien entendu, alors la référence est moins fréquente, mais on la trouve. Donc les surréalistes, il eût été plaisant de se livrer, tandis qu'on célèbre le 150e du poète, à une façon de consultation auprès de quelques-uns qui, depuis un quart de siècle, redonnent un peu de noblesse à un art assez maltraité. Il faudra bien se résoudre un jour à ouvrir le débat, le vrai. Audiberti, héritier de Hugo et d'Edmond Rostand à la fois, ne manquerait pas de donner les Burgraves en exemple aux amateurs de poésie involontaire et irrationnelle. Et enfin, autre filiation, la filiation par le dessin. L'inspiration des dessins d'Audiberti évoque celle de Hugo. Ils sont des aventures fantastiques. À cela près pourtant que le dessinateur en use avec le trait comme le poète avec le langage. Au-delà des griffons, des animaux ailés, des apparitions de fées, au-delà de ce vaste appareil de féerie et de légende, c'est une main qui, sur le papier, poursuit, sans s'interrompre, une course guidée par l'aventure intérieure. Alors, quand on est disciple, quand on se forge, évidemment, en tant qu'écrivain, eh bien, dans un premier temps, il faut être un petit peu insolent par rapport à son maître. Ça, c'est nécessaire. Et les disciples, d'un point de vue anthropologique, font beaucoup de bruit. Alors, on a vu cette question du bruit, justement, dans la poésie. Voici, par exemple, ce que dit Pierre Berger sur Victor Hugo et ses héritiers, malgré eux. Que faire avec Victor Hugo ? Il est là, et sa majesté nous écrase toujours. Il est présent. S'il s'était avisé d'écrire un quelconque « jamais un coup de dé n'abolira le hasard », il suffirait de mettre le mot « présence » à la place des vides et le poème serait aussitôt d'un classicisme quasi universitaire. Un jeudi, chez M. Gallimard, il faudra inviter Hugo. Soyons certains qu'il viendra. Il rencontrera naturellement beaucoup de gens. Certains se croiront obligés de ne pas le saluer. En littérature, on salue trop, ou pas du tout, les autres. Précisément, ce sont les autres qui importent le plus. Le reste n'est que silence. On sait qu'il n'est pas question de silence pour Hugo. Il faut des clairons, des tambours, des fifres, des flûtes. Audiberti a hérité du clairon. Aragon, du tambour. Prévert, du fifre. Et lui a supervié se sont partagés les flûtes. Autre référence à ce bruit et à cette musique, chez Blanchard, hein, dans France Soir, donc vous voyez que j'explore vraiment toute la presse, hein, tous les ventailles. Juger, critiquer, c'est appliquer un tarif, mettre un prix, une étiquette sur une marchandise. Un roman, une comédie peuvent à la rigueur être considérés comme des marchandises, non la poésie. La poésie, c'est une affaire de conscience, doublée d'une question d'oreille. Mon oreille droite, ou gauche, accueille volontiers Jean Follin, mais il ressort immédiatement par l'oreille gauche ou droite. Je vois, ou plutôt j'entends Audiberti comme une sorte de Hugo qui n'ose pas dire son nom, de poète épique honteux qui va se cacher à la cave pour jouer du tambour. Gaëtan Picon, le poète d'aujourd'hui, dit « Lire le recueil d'Audiberti après celui-là, c'est se porter à l'horizon opposé du ciel poétique. Audiberti possède l'une des plus certaines éloquences poétiques du moment, un torrent verbal dont la puissance et le prestige ont été bien des fois démontrés, nous emporte dès les premières mesures. Mais nous reconnaissons bientôt que les pierres qui l'entrechoquent sont arrachées au sol les plus différents. il y a chez Audiberti un sens de la période oratoire, du mouvement épique, de l'organisation des vers et de la diversité des rythmes venus en droite ligne de Hugo, et aussi un sens de l'imagerie populaire et de la chanson, où les aspérités de Hugo rencontrent les inflexions de la Fogg et d'Apollinaire. Enfin, dans ce paysage verbal abrupt et discordant, que la dérision du poétique cerne comme une limite grinçante, éclate souvent la ligne pure et solennelle du grand vers classique, celui des stances de Malherbe, celui de Robert Garnier ou de Ménard. Mais cette éloquence, fleuve où se rejoignent tous les affluents, risque d'apparaître parfois comme une pure éloquence, c'est-à-dire comme une organisation verbale trop concertée, trop détournée surtout des mouvements intérieurs qui assurent à la poésie son véritable pouvoir. Ah, ça serait bien si je pouvais continuer. Alors, disciple irrévérencieux, ça peut aller jusqu'à l'excès, et voici une remarque qui est tout à fait scatologique et qui va bien avec le thème du disciple. Parce que le thème du disciple, comme je vous le disais tout à l'heure, on l'a beaucoup vu par exemple pour les naturalistes, c'est celui qui va se laisser aller de toutes les façons. Enfanté par l'important mais difficile Jouve, Pierre-Emmanuel se livre avec frénésie aux exercices d'une éloquence surchargée, tandis qu'Audiberti, qui décidément commence à se croire à nouveau Victor Hugo, donc c'était mon titre, hein, nous arraisonne de celles qui, malgré leur apparence de puissants besoins naturels, sont en réalité un modèle de production constipé. Je hausse la voix et les signale comme un danger très menaçant pour le devenir de notre poésie. Et c'est signé évidemment du très provocateur Yves Salgue, que vous connaissez par ailleurs, dans son panorama de la poésie française pour Liberté Soir. Et on arrive avec l'intransigeant à quelque chose qui me semble extrêmement intéressant. Donc je vous ai donné toute la une de l'intransigeant et on est tout en bas, à droite, dans les Potins de Paris. Et voici une référence à Hugo et au Liberty Prophète, on vient d'en parler aussi. Et voici comment l'intransigeant présente la chose. « Au Liberty n'est pas prophète », c'est le titre. « Poète, prophète, affirmait le vieil Hugo ». Dans son dernier livre, Talent, d'une si intense poésie, donc vous voyez là, il y a un petit hommage, mais il va y avoir le coup de griffe, Audiberti écrit « Août, autrefois, voulait dire chaleur. Depuis quelques années, août, dès qu'il apparaît, les pluies sont là. » Audiberti n'avait pas prévu août 1947, qui vit grimper les thermomètres à 40 à l'ombre. Alors, par ailleurs, il va y avoir évidemment, hein, là on voit le disciple en construction, le disciple qu'on conteste peut-être dans sa construction, il va y avoir aussi des références, bien entendu, à une filiation pleinement réussie à Victor Hugo. Audiberti, merveilleusement doué pour tous les rythmes, pour tout ce que les mots mis ensemble peuvent faire naître de beauté et de surprise, depuis la coulée vibrante de la strophe en alexandrin jusqu'aux plus étonnantes jongleries. Il a même deux dons que la poésie ne réunit pas toujours. D'une part, il fait surgir de la rencontre entre les mots cette énigmatique beauté qu'il suffit d'appeler malarméenne pour la définir à peu près. Mais en outre, il y met une aisance, un naturel, une abondance qui font penser aux dons que possédait un Victor Hugo dans un lyrisme plus ouvert. Autre hommage, Audiberti, qui peut se réclamer du meilleur Victor Hugo, publier son manifeste de la nouvelle origine, qui s'il n'était peut-être pas très utile et n'avait guère de chance de le consacrer chef d'école, précisait du moins la conception personnelle de ce poète chaotique et violent, usage du verbe considéré comme énergie du monde. Il est certain qu'Audiberti possède au plus haut point la science des mots, qu'il brasse avec puissance et fait s'entrechoquer. Il s'en faut de peu, mais n'est-ce pas parce qu'il se complaît aux allégories obscures et s'abandonne au verbe bien plus qu'il ne le dompte pour qu'il soit un des plus grands poètes de son temps. Et voyez que sont accolés d'une part la consécration en tant que chef d'école qui là est un peu discutée, mais le plus grand poète de son temps. On termine avec cette phrase. Autre référence, Audiberti que je cite plus haut, nous donne avec Rempart, Gallimard, un long poème, ou plutôt une suite de poèmes sur un même thème, le rempart ultime contre la mort, c'est le verbe, où il fait montre d'une vertigineuse faconde. Que l'automatisme de son élan lyrique réussisse à cadrer avec les exigences les plus sévères de la prosodie, voilà bien le miracle. Tour à tour grondant, narquois, pédestre, épique, précieux, Audiberti est parfois un super Hugo, parfois un copé qui aurait pris feu. Donc vous voyez, hein, consacré super Hugo. La presse va donner à Audi Berti l'occasion de travailler la filiation hugolienne. Ce dont on n'a pas parlé beaucoup pour l'instant, c'est aussi Audi Berti qui écrit dans la presse, ou Audi Berti qui est interviewé par la presse. Vous avez cité La Parisienne, mais il y a d'autres articles. Et il y a en particulier cet article passionnant qui va avec ce que vous étudiez, hein, « Les jeunes écrivains lisent-ils Hugo ?». Donc là, je vous ai donné la une du Figaro littéraire en 1952. Donc, les jeunes écrivains lisent-ils Hugo ? Réponse de Jacques Audi Berti, René Char, Maurice Fombeur, etc. dans le Figaro littéraire. Suit une page, toujours dans ce même journal, à Victor Hugo, vue par lui-même, qui est très intéressante, mais que je ne vous commenterai pas. Et puis, en page 6, on a la suite de « Les jeunes écrivains lisent-ils Hugo ?». Et là, on a la réponse d'Audi Berti, qui est très courte par rapport aux autres réponses, mais qui est extrêmement intéressante. Audi Berti, il est le système métrique de la littérature française. Victor Hugo est au point de suture du passé et du temps moderne, l'inévitable, total et parfait maître et poète. Toute littérature française s'ordonne, se vérifie et prend ses perspectives à partir de ce repère en somme éternelle. Tous les Stendhal possibles, les très intéressants Baudelaire et Rimbaud, ne se manifestent soit dans leur subtilité mondaine pour le premier, soit dans leur lyrisme étudié pour les seconds, qu'au regard de la plénitude absolue du génie Hugo. Je ne sache que de vraiment grands, Voltaire, Sade, Breton, Jean-Paul Sartre, qui dans leurs originalités respectives semblent de force à se passer de la comparaison avec VH. Mais le surréalisme et le journalisme d'information sont déjà dans Hugo. Tout le reste du petit peuple. Hugo, ce qu'il apporte, il est le système métrique de la littérature française. Changer à son égard, non. Ou alors qu'on assèche avant l'océan. Poète ou prosateur, indiscernable l'un de l'autre, comme Zeus et Jupiter. Et on a évidemment la référence à l'océan dans cette fin de proclamation. Il y a une autre réponse d'Audi Berti qui me semble extrêmement intéressante parce qu'elle, elle travaille aussi la filiation entre Zola et Hugo, mais de manière extrêmement tranchée par rapport à ce qui pouvait se dire à l'époque. Au XIXe siècle, quand on parle du rapport entre Zola et Hugo, j'ai fait une communication dans cette maison là-dessus, c'est toujours évidemment Zola l'insolent, qui essaie de détrôner Hugo, etc. On ne parle pas de filiation. Or là, Audi Berti va établir une filiation entre Zola et Hugo et souligner ce que, selon lui, Zola doit à Hugo. Et il parle donc, dans plus de 50 écrivains français étrangers témoignent de la présence de Zola, lui il va dire la chose suivante, il va dire « ministre de Hugo et Karl Marx du pittoresque ». Donnons maintenant la parole à un écrivain de l'âge de Marc Bernard afin de confronter les vues de deux écrivains nés avec le siècle. Dans « Présence de Zola », sous le titre « Zola chirurgien », Audi Berti écrit « Zola figurait le type même du ministre d'un cabinet Victor Hugo ». Un de ces ministres a plusieurs portefeuilles, guerre, commerce, industrie, culte. Il me plaisait de retrouver dans ses romans à couverture jaune marquée des quatre lettres de ce nom, Zola, de la même espèce alphabétique barbare et sommaire que celui de mon ami Hugo, le rythme fort et dru en charroi de locomotive à l'honnête clarté épaisse où je me perdais et me retrouvais au fil des Misérables ou des 93. Chez Zola, bien entendu, plus rugueux, le rythme plus gris, sans l'envergure, sans l'envolée, après le doge, le mineur. Il s'agissait de prolonger les Misérables en forage horizontal, myope, méthodique, circulaire. Après avoir cru qu'il aimait le peuple auquel il appartenait par une colossale aptitude à la corvée quotidienne, Hugo s'était mis à l'exploiter. Il y avait là un Orénoque, un Eldorado virginal, un monde, les chiffonniers, les petits voyous, les douaniers, les policiers et celles qu'on appelle les filles. Et je voulais terminer là-dessus, parce qu'il n'y a de filiation réussie que si le disciple devient à son tour un maître. Et il y a une filiation dont on va parler cet après-midi. Donc je ne vais pas en parler outre mesure, mais je voulais juste la signaler pour vous montrer que le cycle vraiment se boucle. C'est la filiation avec Claude Nougaro. Donc on a Hugo, on a Audi Berti, et on a le relais Audi Berti vers Claude Nougaro. Et voici le dernier texte que je voulais vous lire. On le trouve dans le Parisien libéré, on en trouve beaucoup, puisque Nougaro est toulousain, on va en trouver beaucoup dans la Dépêche du Midi, hein, aussi des textes sur Claude Nougaro et la filiation avec Victor Hugo via Audi Berti. Victor Hugo aimait le jazz, peut-être, qui sait, mais il ne le connaissait pas. Quand je dis Victor Hugo, je veux dire un poète épris de poésie efficace et de rimes dans le mille. Ce poète, c'est Claude Nougaro. Il connaît la musique. Il peut donner aux mots une résonance concrète, non encore entendue chez les poètes de papier. Avec le taureau Nougaro, le poète, celui qui sait écrire, débouche en force dans la noire arène du disque afin que de nouveau retentissent la nuit, la femme, les chambres, la pluie, la femme surtout, hors du lit desséché des livres. Et c'est signé Jaco Di Berti. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour ce parcours très érudit dans la presse du XXe siècle, avec beaucoup de titres différents envisagés, des récurrences notables de discours en discours, effectivement. On a un quart d'heure de questions, je pense, ou de discussion.
Par rapport à Zola, j'imagine que vous connaissez cette reprise de la scène du Lavoir dans Carnage. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Carnage est un roman d'Audi Berti qui n'a pas grand chose à voir avec le titre, qui semble un peu sanglant comme ça, mais pas du tout. Et il y a donc une reprise de la scène du Lavoir de l'Assommoir, hein, je crois, de Zola. C'est assez intéressant. Oui, François-Yves.
Oui, alors d'abord bravo pour cette recherche, c'est extrêmement intéressant. Moi j'ai l'impression souvent que Audi Berti, c'est un écrivain qui inspire beaucoup. Et j'ai souvent l'impression que ces gens qui écrivent sur lui sont inspirés par lui. C'est une espèce de déclencheur, je trouve, hein, une espèce d'aiguillon par sa façon d'utiliser le verbe, comme Hugo l'était aussi d'ailleurs, c'était un peu ça. Sauf qu'il pousse peut-être le bouchon un peu plus loin, quoi. Hein. Et que les gens qui parlent sur lui, que ce soit pour le célébrer ou pour le critiquer, sont inspirés par lui.
Alors, je confirme tout à fait, et c'est bien pour ça que je voulais vous lire autant de textes.
Hein. Oui, oui.
Je vous en ai lu beaucoup, parce qu'il me semble qu'on a effectivement la reproduction d'un style, la démesure d'un style, et c'est très bien écrit, tous ces commentaires.
Voilà.
Même dans une presse, et c'est pour ça aussi que j'ai tout mélangé, hein, vous l'avez vu, même dans une presse généraliste qui n'est pas forcément réputée pour la qualité de son style, eh bien, on trouve là des effets qui sont très intéressants, je trouve.
Ouais. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, ça montre à quel point, à une certaine époque, la littérature... enfin voilà, la grande littérature savante, entre guillemets, enfin, littérature artistique, hein, de qualité, pouvait être présente dans ces journaux, hein, qui étaient souvent des journaux de grand tirage. Enfin, bon, non, c'était un peu curieux, parfois surprenant, de trouver au détour d'une page, sur les potins de Paris, je ne sais pas quoi, une critique, entre guillemets, enfin, une mention de talent, par exemple, hein, qui est quand même pas évident, quoi. Donc c'est extrêmement intéressant. Et ce foisonnement, cette richesse, ces contrastes, qu'Audi Berti a vécu, hein, puisqu'il faisait les chiens écrasés aux petits parisiens, participe, enfin, de toute une culture, hein, de tout un mouvement, voilà, c'est très intéressant, quoi. Enfin,
d'autant plus, effectivement, tu le rappelles que Audi Berti était journaliste, c'était son moyen d'existence pendant très longtemps, avant qu'il ne s'adonne au théâtre après la guerre. Et donc, en fait, quand les poètes et les autres journalistes s'intéressent à Audi Berti, c'est à leurs confrères, en quelque sorte, qu'ils parlent. Donc, il y a soit animosité, soit, bien sûr, bienveillance.
Et ce que j'aime chez Audi Berti, il y a une énergie, vraiment. C'est pour ça qu'il dit « Ma mission, rafraîchir par l'expression poétique le monde créé. Le replonger dans son principe, il retourne à son origine, il repasse dans le bain initial. Poète, je crée, je renomme. Pour une durée indéterminée, je puis donc croire à mon efficacité, non didactique, mais utile, urgente, pour que les oiseaux chantent, que le vent passe sur les champs, que les vagues soulèvent la mer. Il faut le vers réussi, digne du poète, cet avocat du créateur. » Les poètes se partagent la besoin selon la nation, le langage, le siècle. Chaque poète est un fragment du roc brisé qui est le créateur. Tous rassemblés, inondant, je veux bien qu'une image balbutiante, ils demeurent cependant les héritiers de la puissance suprême, la parole. Ça c'est extraordinaire, Audi Berti, dans cette énergie, ce verbe vraiment qui éclate de toute sa singularité. Et Audi Berti, ce que j'aime aussi, j'ai découvert vraiment quelque chose d'extraordinaire à travers votre recherche, madame, c'est qu'il y a vraiment une richesse et à côté de tout ça, c'est-à-dire ils ont presque critiqué beaucoup Audiberti. Ah oui. Et ce que j'aime chez Audiberti, il y a toujours cette, la phrase de Vigny, si je puis dire, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Et j'adore une petite, c'est pas une critique, mais j'adore Audiberti quand il parle des grands écrivains, et il dit, Peggy, Valérie, n'arrivez pas jusqu'à nous. En tout cas, la littérature de cette époque était comme simple, familière. Pour mon compte, je n'aimais que Hugo. Tant dans les livres qu'il avait donnés sous son propre nom que dans ce qu'il dénonçait à travers un pseudonyme transparent. Michelet, Le Comte de Lille, Gustave Flaubert, Émile Zola. Ben, Diberti. Je tiens, les deux grands poètes que j'ai lus vraiment, qui m'ont vraiment fasciné, il y a Saint-Paul Roux et Audiberti. C'est les deux vraiment poètes vraiment du XXe siècle extraordinaires. Ben, merci, merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Énergie également.
Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui.
Je voudrais juste quand même dire avoir entendu dans un entretien à la radio avec Gaston Bachelard, Audiberti dit nous pensions que nos poèmes faisaient pousser les moissons, faisaient advenir les océans. Enfin, il y a toute une liste de choses que la poésie, le mot, fait. Je précise quand même qu'il le dit au passé, nous pensions. Et c'est juste une petite correction que je fais par rapport à Audiberti. Théope, il a pensé dans son jeune temps, effectivement, la poésie, c'est le verbe qui fait advenir le monde. Dans l'entretien avec Gaston Bachelard, il s'explique d'avoir... de s'être un tout petit peu défait de cette illusion. Voilà, c'est juste pour faire aussi aller Audiberti vers justement la réalité, le réalisme, la misère, la souffrance. Comme il le dit dans une critique que vous avez montrée, les douaniers, les policiers, les filles. C'est un peu l'autre aspect d'Audiberti, plus proche de Zola. Et là, on a quitté la poésie qui fait advenir le monde. Enfin, si je peux essayer de distinguer peut-être deux aspects d'Audiberti. L'un, poète, peut-être un tout petit peu Dieu. D'ailleurs, il pensait que Hugo, c'était Dieu déguisé. Mais, et l'autre, le poète Audiberti Zola, journaliste au Petit Parisien, qui fait les chiens écrasés, qui est en contact avec les plaies, les maladies, etc. Voilà, c'est les deux aspects. La souffrance, dont il est extrêmement sensible.
Absolument. Très bien, Laurent. Excellent.
Une grande question, moi aussi, sur la communication. Est-ce qu'il y a on a vu beaucoup de critiques sur Audiberti, beaucoup de textes assez méchants, avec des coups de griffe finaux, comme vous l'avez dit. Est-ce que le rapport plus ou moins... plus ou moins critique à Audiberti est indexé sur l'orientation politique des titres de presse que vous avez mentionnés. Est-ce qu'on peut repérer une tendance qui ferait que, pas du tout?
Non, j'ai juste fait l'économie, d'autant plus que Hugo n'était pas évoqué, de ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, où Audiberti va être écorché de manière très très odieuse.
D'accord.
Mais sinon, non, il n'y a pas de... Non.
D'accord.
Non, non, c'est vraiment plutôt une réaction, pour le coup, au verbe d'Audiberti. Mm-hmm.
Ouais. Très bien. Merci beaucoup.
Merci. Merci.